cette nuit de folie finira à 8h du matin, dans la rue, sous la pluie, ou à la coupole et au dôme. Il faut dire qu'il n'y a plus de champagne depuis longtemps et que le buffet a été promptement dévalisé. Qu'importe. Qu'importe si le lendemain, une certaine presse ricane. Qu'importe si elle traite Simenon de romancier à vapeur, adepte du cirque et de la cage centrale. Qu'importe si elle croit que Fayard n'a pas été bluffé. Simenon s'en moque. Il a gagné. En une nuit, il est devenu Simenon et Maigret est connu. Une drôle de nuit, dira-t-il à son ami Carlo Rime. Et pour moi, un souvenir bouleversant, parce qu'en un seul coup, je jouais toutes mes cartes. Il vient d'avoir 28 ans. Est-ce ce jeune hédoniste noctambule, ce soi-disant romancier à vapeur, qui vient de créer un personnage de 45 ans, épanoui, indulgent, réfléchi? Un personnage qui, mais cela il l'ignore, va encore paraître dans 73 autres romans jusqu'en 1972. Un personnage qui va devenir une icône, une figure emblématique au rayon des polars. Se doute-t-il que son ombre lui collera toujours à la plume, du moins au clavier? C'est un sacré chic type, dira la deuxième Madame Simenon. Un policier tout en équilibre alors que son créateur tangue entre désordre existentiel et quête de l'harmonie. Le personnage est à l'opposé du romancier. Petit bourgeois, fidèle à son épouse, têtu et minutieux. Maigret mène une vie tranquille alors que son créateur réinvente sa vie à chaque minute. Simenon est libre et convulsif. Maigret est un fonctionnaire placide qui fait honnêtement son métier. Les deux hommes ont pourtant des points communs. Leur ambition commune est de connaître la nature humaine. L'un comme l'autre veulent savoir jusqu'où l'homme peut aller dans le bien ou dans le mal. En tant qu'enquêteur, Maigret a le droit de pousser chaque porte, d'entrevoir toutes les intimités, ce qui fait écho au voyeurisme inné du romancier. De plus, tous deux sont des éponges, capables en un instant de s'imbiber du milieu, d'un lieu, d'un individu. Enfin, n'est-ce pas leur méfiance viscérale à l'égard de la justice, le besoin de comprendre et de ne pas juger qui les unissent le plus? Pour l'instant, écrire des romans policiers rassure Simenon. Il fait ses armes. Il y a un crime, une énigme, un enquêteur qui fuit partout. Il y a des règles, il y a des rampes, comme il dit. Il suffit de les suivre et le lecteur va jusqu'au bout car il veut connaître l'assassin et son mobile. Soyons-en sûrs, quand Simenon se confiera à un journaliste de l'ORTF, c'est en pensant à son Maigret qu'il avoue être fasciné par certaines personnes qui sont en parfaite harmonie et forment comme un noyau dans la foule. Quand on a un coup de cafard, quand on se sent en déséquilibre, quand on n'est pas sûr de soi, il doit être bien agréable de savoir qu'il y a des gens chez qui on n'a qu'à arriver pour se sentir tout de suite en fraternité. Au fil des premières enquêtes publiées chez Fayard, Maigret gagne en compacité. Son intimité, sa stature, son amour des hommes s'affirme au fil des romans. Si l'on veut une comparaison, Simenon travaille comme Rodin. Au fur et à mesure, il ajoute de la glaise, de l'épaisseur, des couches de vérité qui vont rendre le policier attachant, réel, presque vivant. En attendant, jusqu'en novembre de cette année 1931, il continue de naviguer sur son bateau l'Ostrogo. Il y écrit également. Et les titres s'enchaînent. Le chien jaune, la nuit du carrefour, un crime en Hollande, la danseuse du Gai Moulin, la guinguette à deux sous. Le 15 août, il s'amarre à Deauville et dédicace sur les planches à la terrasse du Bar du Soleil. Il surveille également ses ventes. Les messageries annoncent pour le seul mois de mars 178 exemplaires vendus de Monsieur Gallet décédé sur 260 déposés à la gare Saint-Lazare. 104 vendus sur 150 à la gare de l'Est. Simenon, romancier de gare, le cliché est lancé. En octobre de la même année, sa réussite s'accélère. Le cinéaste Jean Renoir vient lui proposer d'adapter à l'écran La nuit du carrefour. Il en achète les droits pour 50 000 francs. S'ajoute, le 9 novembre, un chèque de 12 500 francs en règlement par Fayard de la version cinématographique du Chien jaune que Jean Taride tournera dans les Embruns de Concarneau. Cette fois, ces phrases vont naître dans les images du noir et blanc. Maigret va enfin prendre vie, bouger, parler. Simenon va pouvoir contempler ces atmosphères captées par une caméra, de l'écrit à l'écran. Autre raison de se réjouir, il signe un premier contrat de traduction avec l'éditeur américain Covici Free Publishers pour 4 titres. Son commissaire va traverser l'Atlantique. Maigret va devenir inspecteur Maigret. Quelque temps après le bal anthropométrique, Simenon veut se rapprocher encore plus de son personnage. Content d'être lui, ne doutant de rien, il demande à visiter de fond en comble le siège de la police judiciaire de Paris, le mythique 36 quai des Orfèvres. Sa célébrité le précède. Le succès aidant, il ne manque pas d'assurance. Mieux, il en déborde. Ce qu'il ignore, c'est que du côté du quai des Orfèvres, on lit aussi les Maigret signés Simenon. Donc, le voici face au grand porche, sous la voûte gardée par 2 agents en uniforme. L'escalier est poussiéreux, les murs décrépits, les marches usées. 3e étage, les bureaux de la célèbre PJ. Cette fois surgit l'émotion. Il entre dans l'univers réel de son Maigret. Des portes ouvertes, des hommes assis devant des téléphones ou des feuilles de rapport, des inspecteurs cigarettes au bec, une cuisse sur une table, la salle d'attente où poireautent quelques mines patibulaires entre 2 flics. Plus loin, des enquêteurs en partance. Cela vit, cela bourdonne dans une franche camaraderie débraillée. Et au bout d'un couloir, le bureau de Xavier Guichard, le patron du 36 depuis avril 1930, qui l'accueille. Simenon est surpris par ses yeux malicieux et ses longs cheveux blancs de poète. Guichard le croit journaliste. Non, proteste Simenon. Romancier. Guichard sourit. Il a, il est vrai, une gamme infinie de sourires et une ironie perceptible. Pourtant, ce sexagénaire, qui le considère comme un hôte de marque, est une pointure. Simenon ne peut oublier que c'est lui, vêtu de noir, coiffé d'un chapeau melon, qui s'est dirigé seul sous les balles vers le pavillon où l'anarchiste Jules Bonneau tenait tête à une centaine de policiers. C'était en avril 1912, en compagnie de l'inspecteur Guillaume. Ses accrochages avec la hiérarchie sont célèbres. Son attirance pour le monde de la nuit aussi. Toutefois, son côté chien tenace, son goût pour les filatures et les planques font l'admiration de tous. Guichard est direct. Il veut montrer au jeune écrivain le fonctionnement des services et des policiers en chair et en os. Maigret, à ses yeux, est encore trop schématique. Guichard se dit désespéré par les erreurs qui entachent les premiers Maigret. Simenon encaisse. Mais avec un petit sourire en coin. Ironique, le patron du 36 lui lance « Votre commissaire n'est pas très crédible. Il planque comme un inspecteur, enquête en dehors de sa juridiction. » Devant les incohérences administratives des premiers Maigret qu'il a lus, Guichard veut rectifier le tir, comme il dit. Dès lors, il confie le jeune écrivain à 2 de ses hommes qui vont lui expliquer le métier et lui faire découvrir le vrai 36. Marcel Guillaume et Georges Massu. Simenon comprend que ces hommes vont influencer, enrichir, corriger le Maigret déjà créé. Le raccommodeur de destinée, que deviendra son personnage fétiche, prend ici une cohérence nouvelle au contact de Guillaume et de Massu. Simenon en ressent un choc violent. L'efficacité de ces hommes, leur travail acharné, leur spécialisation laisse en lui une trace indélébile. Il va faire son miel de tout ce qu'il voit, renifle et entend. Il sait qu'il va modifier Maigret. Du bloc massif qu'il était, il va faire un homme capable d'une incroyable plasticité qui lui permettra d'entrer dans la peau de la victime ou de son assassin. L'ambiance du 36 étonne Simenon. On est entre gens de métier. Les événements sont envisagés du strict point de vue professionnel, sans paroles inutiles. Surtout au cours du rapport quotidien où les chefs de service rencontrent leur patron sur le coup de 9 heures. Pas plus de 30 minutes, mais efficace. Chacun résume ses dossiers en cours, puis s'échappe et reprend le boulot. Impressionné, Simenon capte l'essentiel. Ainsi, c'est ici que se nouent tant de drames humains. Cette fois, il est face à de vrais flics. Pas les petits policiers de Liège où il allait pêcher des infos pour sa gazette. Pas son policier de papier nommé Maigret, mais des hommes de choc, rodés aux interrogatoires impitoyables et à la lutte contre le crime et la violence. Ce qu'il veut voir en premier, l'antichambre. Pourquoi ? Demande Guillaume. Parce qu'il veut commencer par le chemin que les clients du 36 suivent d'habitude. Toujours le facteur humain. Même intérêt pour le célèbre dépôt, un véritable centre de tri. Là, il se trouve face aux individus arrêtés pour crime ou délit flagrant avant d'être transférés devant la justice. Simenon se frotte à la destinée humaine, devine les échecs, croise les regards de celles et ceux qui ont franchi la ligne. Matière sensible dans ces deux quartiers où hommes et femmes sont séparés, dans les cellules où s'entassent prostituées, malfrats et gens ordinaires. Tous des futurs clients pour Maigret, tous. Toujours en quête d'inspiration, il interroge les inspecteurs sur les affaires dont il s'occupe à ce moment-là. Leur avoue que les tueurs professionnels ne l'intéressent pas. Leur psychologie ne pose aucun problème et n'a aucun intérêt à ses yeux. Ce qui le passionne, ce sont les autres. Ceux qui sont faits comme nous tous et qui finissent un beau jour par tuer sans y être préparés. Des futurs criminels dont s'occupera Maigret. À un certain moment, Massu évoque un certain docteur Paul. Pourquoi ne pas aller le présenter à Simenon ? Un petit saut à l'Institut médico-légal suffira. Compétent, facétieux, sympathique, épicurien, le célèbre médecin légiste Charles Paul est le roi du bistouri. Par la suite, il apparaîtra dans pas moins de 36 romans de Simenon. À l'issue de sa visite du 36, le romancier retrouve Guichard dans son bureau et ils se mettent à parler littérature. Sûr de lui, le jeune auteur précise l'originalité de ses Maigret. Jusqu'au début des années 1930, dans les romans français, à de rares exceptions près, le rôle sympathique a toujours été tenu par le malfaiteur, alors que la police se voit ridiculisée, ou pire encore. Comme dans Fantômas, comme face à Arsène Lupin. Voilà pourquoi son Maigret à lui est et demeurera un fonctionnaire comme Massu et Guillaume. Pourtant, le méthodique Guichard revient sur les erreurs techniques dont Simenon parsème ses récits. Le jeune écrivain sourit à nouveau. Et avec une pointe d'accent liégeois, il s'explique. Il sait que les Maigret regorgent de multiples invraisemblances. Il sait que dans une véritable enquête, un commissaire est entouré de 50 collaborateurs. Qu'il y a les inspecteurs, mais aussi la police, la gendarmerie, la surveillance des gares, des frontières. Il le sait. Mais comment introduire ce grouillement dans les 200 pages d'un roman ? Impossible. Alors, pour éviter la confusion, il suit un seul fil conducteur, celui qui dirige l'enquête, à savoir son Maigret. Au lieu de 50 inspecteurs grouillants en désordre, il n'en garde que 3 ou 4 avec une personnalité propre. Et à Xavier Guichard médusé mais séduit, il avoue « Je n'écris pas pour les quelques douzaines de fonctionnaires de la police judiciaire. » Ce qu'il cache à Guichard, c'est que Maigret n'empruntera pas tout aux vrais flics que l'écrivain a côtoyés. En lui demeurera toujours la part secrète où son créateur a mis des fragments intimes de lui-même, a même glissé l'ombre émouvante de son père décédé, lui qui comprenait sans juger. Cela n'empêchera pas l'épouse de Guillaume de déclarer plus tard que Simenon avait tout pris chez son mari. Après avoir remercié Guichard, Simenon, léger comme un homme devant son avenir, retrouve la scène avec ses bouquinistes et ses pêcheurs, ses remorqueurs qui sifflent en baissant leur cheminée sous les ponts. Les jolies femmes aussi sont là, devant lui, avec leurs robes qui fleurissent, qui donnent l'impression qu'elles ne portent rien ou pas grand-chose dessous. La vraie vie, elle est là. Il lui suffit de la brasser à plein cœur. Paris palpite. Le monde est à lui. Ses futurs personnages, il va les trouver dans ses passants qui passent et dans les gens qu'il va rencontrer. Au cours des 40 années qui vont suivre, il les dispersera de Paris à New York, de Nice à Bruxelles, de la Normandie à l'Arizona, des Charentes à Porquerolles, d'Istanbul à Libreville, de la rue Le Pic au canal de Panama. 192 romans, dont 75 Maigret, vont prendre vie sous ses doigts sur le clavier de sa machine à écrire. D'où vont-ils surgir ? De son imaginaire ? Il avouera n'avoir aucune imagination, ne pas être intelligent, préférer son instinct. Il dira qu'il ne pense pas au roman, mais qu'il le sent. Qu'il amalgame plusieurs personnes rencontrées pour en faire un seul personnage. Combien de personnages ? plus de 9000, qu'il fera vivre dans pas moins de 1800 lieux différents de par le monde. Maigret va enquêter en France, en Belgique, aux États-Unis, aux Pays-Bas, sous le soleil ou sous la pluie. Mais le policier restera un homme amarré à son quai, au quai des Orfèvres, bien entendu. Simenon finit par s'éloigner sur ce quai qui deviendra mythique grâce à lui, ignorant qu'un jour la ville de Paris y placera un panneau annonçant « Siège de la police judiciaire », rendu célèbre par le commissaire Maigret. Des nombre de Maigret continuera à planer sur le 36.